savez ce que serait une guerre moderne. Vous savez que ce serait 3 millions d'hommes envoyés à la frontière.
Nous abandonnions un monde qui avait ses, non pas ses tabous, mais ses croyances, ses foi, ses critères, qui étaient bâtis sur tout un ensemble de réalités sociales et morales.
Que ce serait la suspension instantanée de toute activité économique, industrielle, commerciale, agricole.
Du jour au lendemain, tout cela avait basculé et était remis en question.
Oh, ça, moi, j'étais ému, je ne vais pas dire ça. Moi, je n'ai jamais oublié ce départ.
Je crois que, en définitive, pour ceux qui ont traversé ces épreuves,
puis alors on a contourné les fortifications, puis il y avait des petits gosses qui nous suivaient, biscuits soldats, alors des biscuits, puis alors on revenait vers l'esplanade, puis alors là c'était un défilé, alors il y avait...
Je me rappelle tel ancien combattant disant, celui qui n'a pas compris avec sa chair, celui-là ne peut en parler.
Canne levée, il y avait le mouchoir agité des femmes. Ben c'était émouvant, hein. Ça nous secouait hein, quand même.
C'est intransmissible. Et malheureusement, sans quoi il n'y aurait, je crois, plus jamais de guerre.
La mobilisation est un véritable tour de force. Dès qu'elle est ordonnée, tous les transports civils sont supprimés et le premier acte est de rassembler les wagons couverts et plats et d'équiper avec des bancs militaires une forte proportion des wagons couverts porteurs de la fameuse inscription « Hommes 40, chevaux en long 8 ».
Nous, à 30 ans, quand nous nous retournions, nous ne voyons plus que des fantômes et des morts.
Chaque organe du chemin de fer a un journal de mobilisation indiquant heure par heure et pour chaque jour de la mobilisation toutes les opérations à faire. Ces documents sont secrets, enfermés, sous pli cachetés, déposés eux-mêmes dans des coffres-forts.
Comme je sortais de l'école normale, mon colonel jugea tout naturel de faire peur à ce bavard que j'étais. Et je me vois encore monter sur une table au milieu d'une cour de caserne. Encourageant au départ. Tous les soldats qui devaient partir le soir. J'ai fait ce discours. Je suis sûr d'avoir pas menti. Je suis sûr d'avoir dit que ce que je pensais, mais je ne peux pas dire comme ce discours a pu être pour moi douloureux.
Alors j'ai été affecté à l'armée de Lorraine, l'armée Castelnau, et le 24 août, si ma mémoire est bonne, le 24 août 14, j'ai reçu l'ordre d'attaquer en direction d'une forêt qui s'appelle la forêt de Réméréville, dont la lisière était tenue par des unités bavaroises. Nous avons été engagés conformément au principe de Saint-Cyr, c'est-à-dire que nous avons été décimés très rapidement par les mitrailleuses, alors que nous n'avions pas d'appui d'artillerie.
On a fait des repérages, quelques bombardements, avec la VB-101, qu'on a préparé, la VB-101, le raid sur le Witschafen. Alors là, c'est un fameux raid. Hein. Il y avait une vingtaine d'avions, alors c'était plus l'escadrille.
Les deux premiers qui ont été enterrés dans le cimetière, c'est moi qui les ai enterrés avec mon père, André Tatar et son père.
On dépose le brancard à la fosse. Le curé récite les prières, bon, très bien. Cérémonial terminé. Bon. Elle descend dans la fosse.
À un moment donné, je me suis trouvé le seul officier debout dans mon bataillon. J'ai fait ce qu'on m'avait enseigné, j'ai sorti mon sabre et je suis parti. Puisqu'on m'avait dit d'attaquer, je l'attaque et je voulais que je fasse de mieux.
dit, Eugène, descends à la fosse, avec André, les plus jeunes. Alors, ils avancent le brancard tout doucement, nous on en prend une poignée chacun.
C'était le groupe de bombardement, le Bessin. Mais là, c'était des officiers qui ont monté avec les pilotes, c'était pas les mécaniciens. Alors on a été bombardé à Malzéville, on a coupé un arbre qui était sur le plateau et on a monté une batterie de 75 dessus pour tirer quand les avions allemands venaient nous bombarder. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de... les canons, les 75 ne peuvent pas tirer à verticale.
Ouais, c'est des épisodes terribles. Alors, on l'a bien allongé, bien tiré ici. Et je n'ai pas eu l'idée de voir le numéro de son régiment. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais rien. Bon. Alors, quand c'était terminé, j'entends encore le curé qui dit « Eugène, mets-lui son képi sur ses yeux. »
Le 31 juillet 14, Hermann Müller, de la social-démocratie Bosch, jurait aux députés Jaurès et Bedoux et à leurs collègues que la sociale allemande refuserait les crédits de guerre. Elle, une ville, y votait 48 heures plus tard.
Le frisbee s'agite brutalement et se déplace. Une main s'avance vers la tête de Jaurès. Un scintillement de nickel. Deux éclairs. Deux claquements. Et le premier, Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette de guerrière. Tremblez, ennemis de la France, roi libre de sens et d'orgueil. Le peuple souverain s'avance.
Le lendemain matin de la mobilisation, je suis sortie de chez moi et j'ai trouvé le boucher sur le seuil de sa porte avec des magnifiques chaussures fauves, avec des clous, avec des machins, avec des trucs extraordinaires. Il était avec les chaussures en avant et il disait « Nous les attendons de pied ferme !»
Les Germains nous ont envahis plus de 20 fois. 20 fois depuis la Révolution.
Quand on m'a opéré, j'ai chanté. Alors le chirurgien s'est hué, m'a opéré à l'hôpital du Grand Palais. Ça vous parle de vieux, ça, c'était en 1915.
Cela, pour nous, c'est devoir essentiel. Commandement de la famille. Rester unis.
Et ils n'en avaient pas encore en forme dans le temps, ils étaient à l'éther. C'est pas bon l'éther, vous savez. Alors, en m'endormant,
pour mieux connaître l'Allemagne, faire mieux connaître la France, ne plus oublier, prévoir.
Et je me suis mis à chanter la Marseillaise, je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien pourquoi. Ben, l'ambiance.
Écoutons la voix des tranchées et des tombes. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Jamais la famille française n'a été plus dure.
Alors chantez la Marseillaise.
Les Français suivaient des chemins différents.
Et le chirurgien
se sont rejoints au sabbat.
C'est ce qu'il a fait. Et il était tellement heureux. Le lendemain, il m'a apporté une pipe. Il m'a fait cadeau d'une pipe. Parce que je fumais la pipe.
Même dévouement. Même idéal.
Ces forces sont-là qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes.
Les héros qui affrontent la mort savent qu'avant de s'éteindre, leur vie, l'âme brève, on allume une autre mortelle. Et l'ennemi ne comprend pas que ce qui nous déchirait est ce qui nous unit, la passion du droit.
Bon bonhomme, très sévère. Avec lui, il ne fallait pas de pillage. Un pilleur n'est pas un soldat. Tout celui qui va piller, il dit mon revolver est là. Personne n'y a été. Un homme qui ne pouvait plus, par ses paroles, par son entraînement, bien marcher. C'était bon. C'était un officier hors ligne. Et on était 8 volontaires qui marchaient avec lui partout, à l'avant-garde. J'en faisais partie, mais on était 8. Alors on n'avait plus d'ordre. Il est arrivé un officier d'ordonnance des tambours marocains qui était sous Choconin en demandant au capitaine, qu'est-ce que vous faites? Le capitaine dit, moi je n'ai pas d'ordre. Moi, officier d'ordonnance, je vous donne ordre d'avancer. Aussitôt, les officiers sont enlevés sans mot-clés pour faire un bond de 50 mètres. Peggy a reçu une balle dans la tête. Il criait « Tirez, 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 tirez toujours !»
Les raisons n'ont pas de galon. Il a été chargé par, par le général Joffre de former son arme, qui s'est appelée l'artillerie d'assaut. On nous avait donné des appareils, ils étaient ce qu'ils étaient.
On nous donnait dans la chasse du cyanure de potassium dans une boîte. Et alors que je me rappelle qu'un jour, au-delà de Pont-à-Mousson,
ils marchaient plutôt mal que bien. Et bien entendu, tous nous sommes mis à essayer de modifier, d'améliorer nos chars. Et au bout de 15 jours, plus un char ne marchait.
Sans que c'est tourné à Pont-à-Mousson, j'ai eu, à un moment donné, une panne sèche. Pas un ralentissement, panne sur un Nieuport. Un Nieuport, je m'en rappelle pas le type.
Alors, le général Étienne venait nous voir en souriant et nous disait, bon, ben, voyez-vous, dans la vie, il faut être des réalisateurs. Qu'est-ce qu'un réalisateur?
J'ai eu une panne sèche et je me suis posé en territoire, en territoire ennemi. Et alors je me préparais à sortir ma...
C'est le monsieur qui crée sciemment une œuvre imparfaite. Vos chars, bon, ils sont mauvais, c'est une affaire entendue. Mais ils ont une grosse qualité, c'est qu'ils existent. Eh bien, remettez-nous tout en ordre. C'est ce que nous avons fait. Et en effet, les chars se sont mis à marcher.
Ma petite boîte de potassium, et puis la vallée. Je vois un escadron de cavaliers qui se dirige à toute allure vers moi. Et j'étais là, je tirais sur le levier d'accélération pour essayer de mettre le moulin. Il tournait, tac, 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 tournait, tournait, tournait. J'essayais de lui faire la prise, et il est arrivé. Et on m'a dit, ça repart. Et alors, ils étaient à peu près à 400 mètres de moi. Alors, je mets plein de sauce et je me dirige vers eux. Et puis, en voyant, ils s'écartent, pam, je fais une épingle à cheveux, enfin, un virage à la verticale du côté gauche, et je rentre.
À côté du cimetière de Villers, il y avait une bande de terrain qu'on cultivait. Et puis, on a fait tant de démarches, et puis on a été à la commandature avec Echemer, Et puis ils nous ont donné un papier pour pouvoir, parce qu'on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'aller au cimetière, on n'a pas le droit de sortir entre telle heure et telle heure. Alors, total, on est arrivé à avoir un laissez-passer pour aller planter des pommes de terre. Alors, on a été planter des pommes de terre, on s'en allait avec les bêches, les brouettes, et puis on plantait des petites pommes. Les chemins, ils disaient, tant pis pour vous, si on voulait planter, tant pis. Ben, et puis on les a plantés, on plantait des chaudes pommes de terre, on disait, ma foi, à la grâce, on les récoltera certainement. Puis comme de juste, on les a récoltés, nos pommes de terre. Alors, total, faim, nous avons été privés de beaucoup de choses, mais faim, nous ne l'avons pas eu parce que tellement qu'on s'organisait pour tout, quoi.
Mais s'ils annonçaient quelque chose d'heureux, on y croyait quand même un peu. Les journaux aussi nous trompaient. Quand arrive en repos après une attaque meurtrière, nous lisions dans le communiqué que nos pertes avaient été légères, les imprécations éclataient. Et ceux qui sont restés en haut de la crête, on n'en parle pas. Et ceux qu'on achetait dans la fosse, ils ne les ont pas comptés, ces salauds-là.
Alors, dans notre rue, il y avait un ouvrier, meunier, qui travaillait à ce moulin-là. C'est un Gascon. On n'a jamais su comment il était arrêté là. On a toujours cru que c'était un soldat français qui avait été isolé puis qu'il était atterri là. Alors, ces meuniers-là, ils ramenaient, après leur journée, des petits sacs de farine dans leur poche. Ces sacs-là de farine étaient promis à des habitants de Ham, des habitants sûrs, très sûrs, naturellement. Alors ensuite, n'ayant pas assez de farine pour leurs clients, ils avaient pris des complices, ils allaient la nuit prendre la barque des maraîchers, ils remontaient le courant jusque derrière le moulin, et de là, les meuniers leur passaient des sacs de farine par des fenêtres. Puis, il y avait des porteurs de farine. Alors, dans moi, j'en étais un. Père Lécuyer, enfin, je l'appelais Père Lécuyer, il me donnait des petits sachets de farine, puis il me disait, eh ben, tiens, tu iras les porter à tel endroit.
De quoi demain serait-il fait ? S'il était possible qu'une paix boiteuse vint jamais s'asseoir essoufflée sur les décombres de nos villes détruites. Un nouveau traité draconien serait aussitôt imposé à notre latitude.
Ils sont là, il faut les supporter. Surtout, il ne faut pas avoir des résistance. Puis dites-vous, ne me faites pas fusiller. Tâchez d'être sage.
La vassalité politique, morale et économique de nos ennemis. Industriels, cultivateurs, ouvriers français seraient à la merci de rivaux triomphants.
Puis, alors on y obéissait. Et puis si vous avez des armes, puisque ils réclamaient sur tout ça, si vous avez des armes, il faut les donner. Puis nous autres, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien du tout. Et puis total, ça s'est très bien passé.
Et la France humiliée s'affaisserait dans le découragement et dans le mépris d'elle-même.
Puis quand ils avaient envie de faire une perquisition, ben c'était bien, bien simple. Il y avait appel sur la place. Alors tout le monde devait se rendre sur la place et alors nos maisons étaient visitées.
Donc oserait faire cette injure au bon sens public et à la clairvoyance nationale.
Nous ne pouvions pas leur dire rien et puis eux nous disaient absolument rien.
Il n'est pas un seul de nos soldats, il n'est pas un seul citoyen, il n'est pas une seule femme de France qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de notre race, et non seulement son honneur, mais son existence même, sont suspendus aux lourdes minutes de cette guerre inexorable.
Comme ça, ça c'est à Villers, ça s'est toujours très bien passé parce que je me dis, ils sont là, nous ne pouvons pas les éviter. Il faut vous taire, il faut obéir, il faut essayer de vivre comme nous pourrons.
n'avait pas le temps de revenir au sol, il fallait jeter par-dessus bord. Il n'y avait pas de parachute. Alors, il y avait les seuls parachutes qui existaient pendant la guerre de 14-18, c'était les Draken qui les avaient, les saucisses, quoi.
On avait un fameux avion là, qui nous mitraillait tous les jours. Tous les jours au matin, quand on masse, là. Voilà.
Les officiers de... Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir sauver un lieutenant d'artillerie, comme ça.
On l'aimait pas, celui-là. Il avait les rubans qui se promenaient, on l'appelait Van Mortier, nous. Mais il nous mitraillait. Hein.
Un Allemand arrive, met le feu au Draken, le type se jette en parachute. L'Allemand, généralement, c'est ce qu'on ne faisait pas, nous. Pique sur le type et le mitraillait. Je suis arrivé, j'ai pu éloigner l'Allemand et le type a pu atterrir.
On se planquait dans... En dessous des... Il laissait tomber des grenades dans les tranchées, hein. Oh, c'était à 14 du matin, ça. Oh, à la pointe du jour.
Je me suis évadé. C'est-à-dire que le colonne pour partir travailler, il y avait une centenaire de télé 10 mètres.
On espérait d'avoir quelquefois la fine blessure, hein. Faut pas croire qu'on cherchait le combat, hein.
Seulement, ceux qui j'étais... qui partaient en avant, ils avançaient vite, puis ceux qui étaient derrière, ils avançaient doucement. Ça fait qu'au lieu d'avoir une sentinelle tous les 10 mètres, il n'y avait plus que tous les 100 mètres.
C'est humain, ça, faut dire, la vérité. Comment, c'est de l'hypocrisie, c'est pas vrai. Mais tant qu'on était là, ben, on se disait, ben, il faut y aller. Hein.
Puis là, j'ai tombé justement sur un petit bosquet qu'il y avait là. Puis je fous le camp dans ce petit bosquet, puis il y avait justement un camarade qui s'était sauvé aussi, puis il était là. On est tombé à dos, bien sûr, puis il est resté à dos, bien sûr. Et puis d'un seul coup, là, il y a une autre bande qui se sont sauvés à 4-5, et puis les Allemands étaient derrière. Puis ils s'amenaient pour fouiller le bosquet, mais ils ont aperçu les autres qui se sauvaient, puis un qui leur laissait un veston accroché au mur. Au mur, c'est-à-dire à l'œil. Puis les Allemands, en arrivant, ils ont vu mes vestons, ils sont partis par là. Et nous, on a foutu le camp de l'autre côté du bosquet. On est parti, bien sûr.
Et on savait qu'on allait au danger. C'est toujours la même chose. Il y a l'instinct de conservation qui est ça, qui est en nous. Ça fait... Oh oui, ça. Autrement, il n'y aurait pas de mérite d'aller au combat. C'est l'instinct de conservation, mais il y a toujours ce sentiment de l'honneur. Le mot n'est pas excessif, sentiment de l'honneur, de tenir.
Ne croyez pas, parce qu'on passe au-dessus de vous, qu'on voit tout ce qui se passe. On ne voit absolument rien. Il est très rare que nous voyions des Boches dans leurs tranchées. On passe trop vite.
Parce qu'on est là, il n'y a pas comme nous, avec des camarades, on ne peut pas lâcher la rampe, hein, non. Si on subissait beaucoup de pertes, et bien à ce moment-là, le régiment était relevé, c'est automatique.
Vous êtes, vous, fantassins, souvent mitraillés par des avions Bosch qui enfilent une tranchée et tirent des coups de mitrailleuse.
On arrivait même quelquefois à souhaiter presque qu'il y ait des pertes, tout au moins pour les survivants, pour qu'ils soient relevés, parce que au fond c'était intenable. Hein. Quand on a été relevé, on respirait, ça c'est humain. Hein.
C'était pas très facile parce qu'il n'y avait pas de moyen de communication entre le monsieur qui était en l'air et le monsieur qui était à terre. Nous, par exemple, dans un tir, il faut indiquer si le tir est à droite ou à gauche. Ben, pour dire que le tir était à gauche, on tournait à gauche. Pour dire qu'il était à droite, on tournait à droite.
Pendant la réserve, nous relevés de réserve, des gens tombaient dans l'eau, dans les trous d'obus dans l'eau. Ils se mettent à deux copains pendant 5 minutes pour pouvoir rester. Alors, lui donne un fusil, tirer, pas moyen de l'avoir, et laisser là, il est bon là-dedans. On dit, on va avertir les... On n'avait pas le droit. On n'a pas le droit, nous. On va avertir les brancardiers. Les scrapnels aussi.
Et la tête surgir des profondeurs où elle paraissait endormie. Où certains, les fils étaient éteints. nos ennemis les croyaient à jamais morts, les qualités et les vertus les plus nobles de notre race.
Ceux qui ont crié après moi et d'autres, qu'on voulait aller vite, en sautant, on tirait d'une tranchée pour gagner 100 mètres, pour aller plus vite à l'arrière, pour être plus vite à l'arrière. Et ils criaient notre copain,
toutes celles, nos époques les plus critiques et les plus angoissantes de notre histoire, alors que l'existence même de la patrie semblait irrémédiablement compromise.
Aussitôt, on a gagné 100 mètres, on tombait dans la tranchée, mais on a gagné 100 mètres. C'était des petits grains d'obus, un obus qui éclate en 10 boules, 10, 15 boules.
On sut chaque fois réaliser le miracle d'assurer son salut, d'augmenter ses trésors de gloire et de répandre plus largement son rayonnement dans le monde, en même temps que le sentiment de sa force accrue et de son génie plus anobli.
Have you seen any American soldiers? Avez-vous vu des soldats américains?
Ce miracle, dès la première heure, dans un élan unanime de fraternité et de confiance.
Where are our headquarters? Où est notre quartier général? I want to find my regiment. Je veux rejoindre mon régiment.
À rapprocher tous les Français divisés la veille par des dissensions dont beaucoup, espérons-le, ne renaîtront pas après la guerre.
Have you seen the enemy? Avez-vous vu l'ennemi? I am short of cartridges. Il me faut des cartouches. Can you give me any information about the enemy? Pouvez-vous me donner des renseignements sur l'ennemi?
Les Allemands s'efforcent d'éviter de formuler le pénible aveu. La délégation est là, dit tout d'abord M. Herzberger, pour recevoir les propositions des puissances alliées. Le maréchal répond n'avoir aucune proposition à faire.
C'était des bombardements affreux, quoi. Vous savez, dans la bataille, c'est un bruit épouvantable, je sais pas. C'est inimaginable le bruit d'une bataille. Des centaines de pièces de canon qui tirent en même temps. Nous, on a eu la chance pour débuter, on était en position dernière ligne de chemin de fer.
Le comte Oberndorf exprime l'idée que le mot « condition » convient peut-être mieux. Cela ne satisfait pas le maréchal. Monsieur Herzberger biaise encore en donnant lecture d'un texte du président Wilson, disant que le maréchal est autorisé à faire connaître les conditions de l'armistice.
Alors les obus qui tiraient un peu court, ils tombaient là. Puis ceux qui étaient un peu longs, ils nous passaient sur la tête. Ils tombaient là. Alors après, où il y avait des vaches, puis on poussait les tués d'ailleurs.
Je suis autorisé à vous faire connaître ces conditions si vous demandez un armistice. Demandez-vous un armistice, interroge d'un ton sec le maréchal. Oui, nous demandons la conclusion d'un armistice, répondent d'une seule voix et avec une certaine précipitation M. Herzberger et le comte Oberndorf.
On n'était pas beau à la fin de la bataille. Hein. Bon, à la fin de la bataille, moi j'étais couvert de poux, couvert de boue, les deux tympans crevés. Alors pour se débarrasser de moi, on m'envoyait en permission.
Les hommes partirent, les femmes pleurèrent, mirent les chaussettes dans la musette, le pain, le saucisson et le kilo de vin. Mais ne dirent rien. Elles écrivirent « N'attrape pas froid, ça durera 3 mois ». Et l'infirmière attendait le blessé comme le boucher. Et pas une ne criait « Assez ». Le poilu était le parent pauvre, donc de province. Un an après, le vieux grand-père à la campagne. Elles envoyaient du chocolat ou encore du tabac. Pas une ne disait « Assez, reviens ». Les uns avaient assassiné Jaurès, les autres avaient plus faim de curé. On mangeait du boche dans le communiqué. Jean, Alice et Marie flirtaient avec l'anglais, les américains. Et pas une ne disait assez, reviens. Prisonniers, amputés, morts, ou peut-être encore disparus. Patient, le poilu est revenu. Mais les femmes ne l'attendaient plus.